Vous êtes sur RTL.
Balade gourmande sur RTL
avec Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demont.
Ouais, ça souffle ce matin, il pleut dans l'aube. Kiki qui nous écoute a le moral dans les chaussettes. Donc j'ai un remède pour vous qui s'appelle Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demont. C'est pas mal ça. Hein,
vous avez terminé
les selfies, tout ça machin. On dirait des ados là.
On fait pas des selfies.
Allez, on a trois guides du retard à gagner au 32-10 et en ce jour de finale de Coupe du Monde de rugby. Vous avez choisi votre équipe, Jean-Sébastien. On commence par vous et par une balade en Afrique du Sud. Mais alors où ?
Nous parlons de balade gourmande, mais d'accord. Je vous propose de partir à une quarantaine de kilomètres du Cap, histoire de parcourir cette somptueuse région des vignobles sud-africains. En quelques kilomètres, on va se retrouver au cœur d'un décor d'une rare harmonie et la route est jalonnée de grandes propriétés viticoles qui peuvent être d'une opulence parfois époustouflante. La vigne se plaît sur des terres où les montagnes favorisent des microclimats parfaits pour les raisins. Ça semble idéal comme situation. On trouve les mêmes propriétés des cépages bordelais, alsaciens ou provençaux. Le Sauvignon côtoie le Merlot, le Riesling profite de ce terroir autant que la Syrah.
Dites-nous, on peut les visiter les propriétés ?
Alors pas toutes, mais lorsqu'elles sont ouvertes au public, on visite les caves, les chais et nombre de domaines possèdent même un restaurant plus ou moins abordable. En revanche, il faut savoir que la plupart des visites et des dégustations sont payantes, à la différence de la France. Et puis, il y a un passage obligé. La ville de Stellenbosch, c'est une ville, une vieille ville, fondée à la fin du XVIIe par les colons hollandais. La présence de rivières et donc d'eau, en plus de terres riches et généreuses, firent que la cité s'est rapidement développée. Alors on se retrouve dans le berceau de la viticulture sud-africaine. Stellenbosch, c'est sans doute la ville qui conserve le plus de traces de l'histoire de la colonisation en ayant su conserver des édifices marquants de chaque période. The Village Museum raconte à travers quatre maisons, quatre bâtisses qui ont été construites entre le début du 18e et la fin du 19e. Vous avez Dorp Street qui est la rue où se concentre le plus de maisons qui témoignent de cette mémoire. Morkel House date de 1693, Saxenhof de 1704, et entre les deux, personne n'a jamais envisagé de toucher à ce chêne planté il y a 207 ans. Année où Napoléon entrait dans Moscou avant de connaître la Bérézina. Un peu plus loin, le Stellenbosch Hotel nous emmène en 1876. La ville est vraiment agréable, notamment parce qu'il y a une université qui compte plus de 30 000 étudiants. Du coup, il y a une vraie vie nocturne. C'est extrêmement bon enfant comme ville. Il suffit de se rendre au Bohemia, qui est dans un des plus anciens bâtiments de Stellenbosch. Les concerts live se succèdent. On boit bien. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'ambiance tout à l'heure pour le match.
Ouais, avec modération, bien sûr. Vous avez encore plus typique.
Pas là, non, je pense pas.
Vous avez encore plus typique sur cette route des vins sud-africaine.
Oui, on va passer d'une ville de 130 000 habitants à un gros bourg de 15 000. Franschhoek fut fondée par les Huguenots français, venus ici pour fuir les persécutions après la révocation de l'édit de Nantes. Ils avaient apporté avec eux des pieds de vigne et un savoir-faire français en matière de vin. Trois siècles plus tard, les racines françaises sont encore très présentes, notamment dans le nom des propriétés, Dufour, Leroux, Duplessis. Pour découvrir toute cette histoire des Français là-bas, il y a un mémorial absolument passionnant. La simple consultation de la liste des Français qui se sont installés là-bas offre un panorama sur plus d'un demi-million de Sud-Africains d'aujourd'hui. Exemple, Charlize Theron. Eh bien, elle est d'origine française, ça vient de la famille Théron, T-H-E-R-O-N-D. On découvre aussi comment les colons hollandais liquidèrent la langue française et la culture française en moins de deux générations. Et puis, fin de la balade. Alors là, au paradis, si ça vous tente, Babylon Storen est à la fois un domaine viticole, un jardin botanique fantastique avec des vergers, des potagers. Il y a deux restos où vous mangez tout le produit de ces vergers et de ces potagers. Tout est beau, tout est harmonieux. On mange, on boit bien sur une terrasse. On mange dans une serre s'il fait un peu gris. On n'a plus envie de bouger, on n'a plus envie de rentrer, on a juste envie de profiter. Et puis aujourd'hui, de regarder le match et de voir l'Afrique du Sud gagner.
Voilà, l'Afrique du Sud pour vous, Jean-Sébastien. Du coup, Louana, vous avez choisi l'Angleterre. Et c'est l'heure du fish and chips. On peut difficilement faire plus emblématique. Hein.
On peut vraiment pas, parce que en fait, le fish and chips est né au Royaume-Uni il y a 2 siècles. Il reste un des symboles de la street food. Il faut savoir que avant, il était servi carrément dans les rues, dans du papier journal. D'ailleurs, on le imite de nouveau quand on va dans les restaurants. Il faut savoir aussi que le meilleur que moi, que j'ai mangé, c'était en Écosse, chez Bailly. C'est le fish fillet d'aigle fin. L'aigle fin, c'est vraiment très, très bon, avec des frites, avec une sauce tartare. Mais il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les fish and chips, on les trouve à la carte de presque tous les pubs et tous les restaurants, et pas seulement au Royaume-Uni, mais aussi dans le monde, en France aussi. Il suffit, par exemple, d'aller goûter celui des Belles Maisons, dans le 9e, rue des Navarins. C'est vraiment délicieux. On peut en profiter aussi. Si, si.
Pas facile à dire Royaume-Uni. Hein,
Royaume-Uni.
C'est comme ça.
Mais c'est pas grave.
Qu'est-ce que c'est un bon fish and chips?
Alors, c'est vraiment un plat super simple. Donc, la fraîcheur des produits, c'est hyper important. Fraîcheur et qualité. On ne prend pas du poisson congelé, il contient trop d'eau. Il faut du poisson frais, soit de l'aigle fin, du cabillaud, de la doc. Ou si vous voulez un peu plus d'originalité, vous prenez du flétan, du maquereau ou des langoustines. Ensuite, la panure. Je vous donne ma recette à moi. Elle est super. Vraiment. C'est pas comme
très
le Royaume-Uni.
Non, les Italiens,
non, celle-ci,
c'est la modestie
d'abord.
Vraiment,
elle est géniale. Je mélange de la farine de blé, 3/4, avec de la farine de riz, 1/4. On le tamise dans un bol, on verse de l'eau très très froide, voire gelée, avec une pincée de sel. On fouette, on laisse reposer le tout au frais pendant 30 minutes. Il faut passer ensuite les filets de poisson dans un peu de farine de riz, puis on les plonge dans la pâte à panure, et puis on les fait frire entre 5 et 6 minutes à 180 degrés dans un bain de friture. Les pommes de terre, c'est important aussi, ils sont pas coupés, c'est pas des French fries, elles sont pas toutes fines, il faut les couper en gros bâtonnets. Il faut les laver pour enlever l'amidon, les sécher et on les fait frire dans 2 bains d'huile. Le premier à 140 degrés pendant 10 minutes, on les laisse reposer sur du papier absorbant et à la fin, on les réfrit à 180 degrés pendant 4-5 minutes. La sauce tartare, elle est faite simplement des cornichons hachés, de l'oignon frais, des câpres, des persils. On mélange le tout avec de la mayonnaise, de la moutarde et bienvenue au Royaume-Uni.
Voilà, oh, bien, bravo.
Je l'ai dit.
Elle l'a dit. On met tout ça évidemment sur notre page Facebook,
oui,
hein,
la
en détail.
La
panure, elle est plus légère parce que ça fait c'est presque une pâte à tempura,
voilà,
un peu améliorée. Parce que sinon, on met des œufs, de la bière, et du coup, c'est là où ça fait.
C'est un peu plus lourd, évidemment. La question pour gagner les guides du routard.
En quelle année a eu lieu la première Coupe du monde de rugby à 15?
À 15, c'est important de le préciser évidemment.
Enfin,
c'est
13, d'aujourd'hui,
pas à 7,
quoi.
Hein, celle d'aujourd'hui, de tout à l'heure, de 10h, dont on va parler dans un instant avec Christophe Dominici, notre consultant de l'Ovalie. Il a plein de choses à nous dire évidemment. Est-ce qu'il penche pour l'Afrique du Sud ou l'Angleterre? On lui pose la question. Restez avec nous.